Nous voici arrivés au terme. Donc vous l'avez compris, nous avons un don qui est merveilleux. Nous recevons exactement la même chose que Jésus. Il se reçoit du Père dans l'Esprit. Et nous, nous nous recevons de Jésus et du Père dans l'Esprit. Cet Esprit qui nous est donné donc dès le baptême. Et là, je cite le pape. Le salut que Dieu nous offre est œuvre de sa miséricorde. Il n'y a pas d'action humaine, aussi bonne soit-elle, qui nous fasse mériter un si grand don. Et comme dit Jésus, si un enfant vous demande un œuf, vous ne lui donnez pas un scorpion, etc. Ben, votre Père qui est aux cieux, il vous donne ce qu'il a de meilleur. C'est-à-dire, c'est lui-même, son état d'esprit divin. Ce qui fait que nous passons, avouons-le, très fréquemment, à côté de l'esprit, par ignorance. Parce qu'on a été ainsi formés que nous nous imaginons que c'est toujours faire ceci ou cela, ou se forcer à penser. Ce qui est compliqué, vous voyez, on vous parlait de la chair, tout ça c'est la chair, mais ouvrez-vous tout simplement, mais petit à petit cet esprit de Jésus et du Père va vous envahir, hein. Le Père et moi, nous viendrons chez lui, nous y ferons notre demeure, hein. Jean 14, 23, hein, si vous voulez retrouver la référence. Alors je reprends, le salut que Dieu nous offre est œuvre de sa miséricorde. Il n'y a pas d'action humaine aussi bonne soit-elle qui nous fasse mériter un si grand don. Dieu, par pure grâce, par pure gratuité, nous attire pour nous unir à lui. On reprend les termes que nous avons développés. Il veut nous unir, c'est un rapport de nuptialité. Hein. Il envoie son esprit dans nos cœurs pour faire de nous ses fils, pour nous transformer et pour nous rendre capables de répondre par notre vie à son amour. L'Église est envoyée par Jésus-Christ comme sacrement de salut offert par Dieu. Par ses actions évangélisatrices, elle collabore comme instrument de la grâce divine qui opère sans cesse au-delà de toute supervision possible. Donc voyez, nous avons déjà le cadeau inouï de recevoir le même esprit qui engendre le Fils et que Jésus reçoit dans sa mission terrestre. Lorsque le Fils éternel du Père prend la condition humaine, nous n'en avons pas moins. Nous avons exactement la même chose. Vous êtes face à la question, qu'est-ce qu'on en fait ? Et deuxième grâce absolument exceptionnelle, il aurait pu se débrouiller tout seul, mais il veut nous faire participants de son œuvre de grâce, de son œuvre de diffusion de l'Esprit. Et il veut faire de nous, de tous, quelquefois la forme qu'il ait choisie pour nous, des évangélisateurs. Et cela me permet d'aborder le dernier point avec ce que nous dit le pape, hein, dans Evangelii Gaudium. Donc, il reprend, souvent le pape parle à partir de qui a été débattu au synode des évêques. Hein, ce n'est pas le pape qui parle comme ça de lui-même, souvent, il fait appel, il y a des documents qui sont spécifiquement pontificaux, où il prend, il se fait aider, je reste la dernière encyclique, Laudato Si, hein, grosso modo, sur l'écologie, notre rapport au monde, bon, il faut bien faire appel à des spécialistes qui connaissent tous ces problèmes. Mais là, dans ce cas, hein, ça a été fait avec le synode des évêques. Hein, il y a une collégialité. Vous avez une collégiale à Saint-Gaudens, parce qu'il y avait des chanoines, sûrement. Alors, synode des évêques sur le thème de la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. On y a rappelé que la nouvelle évangélisation appelle chacun, chacun de nous, et se réalise fondamentalement dans trois domaines. 1. En premier lieu, mentionnons le domaine de la pastorale ordinaire, animée par le feu de l'esprit pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement les communautés. Donc nous avons à nous laisser embraser par ce feu de l'esprit. Si nous n'avons pas ce feu, nous ne pouvons pas le communiquer. Si on l'a laissé étouffer quoi sous la cendre. Deuxièmement, rappelons le domaine des personnes baptisées pourtant ne vivant pas les exigences du baptême. Ça fait partie de toute cette chrétienté diffuse, marginalisée, qui a été baptisée puis qui pour finir laisse tomber tout le reste. Ils sont appelés à redécouvrir ou à découvrir ce cadeau merveilleux qui est en eux. Et troisièmement, évidemment, ça s'adresse, enfin remarquons que l'évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l'évangile, de ceux justement qui ne le connaissent pas, ou du reste, dit-il, qui l'ont refusé jusqu'à présent. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, réfléchissons, parce que souvent je m'aperçois que dans les familles, surtout au niveau des grands-parents qui souffrent beaucoup, de voir que leurs enfants ne sont pas baptisés, etc. Donc, sans le vouloir, du milieu de cette souffrance, on désire tellement que les enfants reçoivent l'Esprit de Dieu que parfois on peut tanner tellement que ça peut éventuellement produire l'effet inverse. Les chrétiens ont donc pour devoir d'annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, et donc on ne peut la partager que si on l'a, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. Vous voyez, donc si nous vivons de l'esprit, ça nous ouvre, vous l'avez saisi, tout cet espace qui est un espace divin, qui est vie éternelle, qui est joie divine, qui est pureté divine, et tout ça, ça se manifeste dans la totalité de notre existence. Et là, déjà, vous voyez, c'est une action évangélisatrice puissante. Ça me rappelle du temps de Saint François d'Assise, où il dit à ses frères, on va évangéliser. Ils partent, ils passent dans une ville uniquement comme ça, sans rien dire. Et les gens, en voyant les franciscains, voilà, ont été bouleversés. C'était bouleversif. Voilà, donc il faut que nous soyons, notre vie en Dieu soit désirable. Donc il part aussi en guerre contre les chrétiens qui sont tristes. Ce n'est pas parce qu'on fait la gueule que ça ira mieux. Il y a des gens qui font souvent la gueule. Hein. Ils sont tellement près du bon Dieu que quand ils voient les autres qui n'y sont pas, ça leur fait faire la gueule. Donc il nous dit, s'il est nécessaire de passer d'une pastorale de simple conservation, hein, nous nous conservons entre nous, voilà, quoi, on est bien conservé, comme toutes les conserves qu'on peut faire avec le cochon ou le canard, mais bon, c'est pas ça qui est vivant. Hein. Donc il faut passer de cela, dit-il, à une pastorale vraiment missionnaire. Cette tâche continue d'être la source des plus grandes joies de l'Église, la joie de se donner et puis de communiquer, et donc, nous le connaissons, hein, la parole de Jésus à propos d'un pécheur. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Mais cela va impliquer une chose que nous avons abordée un peu ce matin, et vous l'avez certainement remarqué dans votre existence. Quand les choses nous font souffrir, on voudrait que quelque chose change. Mais on finit par être acculé, il n'y a plus qu'une solution. La solution, c'est de se donner et de s'offrir au Christ. Et c'est ce qu'on évoquait ce matin, de devenir nous-mêmes miséricorde. Et la puissance de la prière, ce n'est pas une prière qui tourne à la magie parce que je dis des formules et que ça va marcher ou que ça ne marche pas. C'est le fait de s'offrir nous-mêmes pour qu'il nous transforme en lui. Donc le cœur même de toute prière que nous puissions formuler ou vivre ou vivre dans le silence, c'est de devenir offrande. Et nous ne serons véritablement heureux que si nous sommes totalement offrande au Christ. Et donc, si on est offrande, il va se servir de nous. Vous vous rappelez, on est une extension dans le fond de son humanité, et c'est comme cela qu'il touchera les cœurs. Mais ça passe, vous voyez, on parlait de l'enfantement et de la miséricorde qui se rattache à un enfantement, puisque il y a un mystère du sang au fond de la miséricorde. C'est le sang invisible de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, de notre âme qui est immatérielle, et qui exprime bien à travers cette analogie du sang physique qu'il y a quelque chose qui est déchiré en nous par la souffrance que s'est offert à Dieu pour la conversion des autres. Alors, je dis ça surtout pour les grands-mères et les grands-pères.
Et les arrières.
Et les arrières. Il faut toujours assurer ses arrières. Voilà, parce que je sais, en écoutant les grands-parents ou les arrière-grands-parents, quelle est la souffrance qu'ils portent, parce qu'eux, ils ont rencontré le Christ. Et de voir les générations qui suivent prendre ça à la rigolade. Je pense qu'on ne le prendra pas toujours, à la rigolade, parce qu'on va vers des temps. Il va falloir se poser des vraies questions. Alors, ben voilà, je suis arrivé au terme, non pas de Barbotan, ni de Cap-Verne,
ni
de Barbazan,
ou de la Barthe-Rivière,
ou de Ganty. Voilà, donc, pour résumer la situation, la véritable joie, c'est pas les joies du monde. C'est sûr, on a besoin de détente, on a besoin de choses pour avoir une vie qui soit pas trop galère. Et puis, ben, c'est vrai, nous apprécions beaucoup la nature. Je pense que les joies dans la nature sont extraordinaires, qu'avoir les lapins.
Bleu,
et,
je préfère.
La véritable joie ne se trouve qu'en Dieu. Hein, pour les gens qui sont incroyants, ça apparaît absurde. Mais pour nous, c'est la source de... Une source qui commence à s'épancher doucement et puis qui après devient un fleuve immense. Hein. Vous vous rappelez du temple, de la vision du temple d'Ézéchiel. Hein, il y a l'eau qui sort sur un côté, d'abord on peut la franchir facilement, puis après ça devient un fleuve tellement large, hein, ce flot qui va sortir de nous-mêmes, qu'on ne peut plus le contenir ni même le traverser. et que ça irrigue tout ce qui se trouve autour. Alors donc, si nous laissons dans notre temple intérieur le passage de l'esprit, nous serons baignés et nous porterons du fruit toute l'année, comme il est dit dans ce passage. Voilà. Merci. Alors je répète, ce n'est pas un temps de silence pour savoir si on est capable de se la fermer. C'est le silence de rencontre avec Jésus qui nous parlera. Parce que vous voyez, ce silence intérieur, c'est la disponibilité pour recevoir. Et c'est de cette disponibilité pour recevoir que lui peut se donner. Sinon, il ne le peut pas. On occupe toujours l'espace. Alors, ne réagissez pas bêtement en disant, puisqu'on demande le silence, je vais parler. Ben, vous en êtes les victimes. Allez, en route, mauvaise croque.